finite. Vediamo se mi dice cosa pensa della Carta di Parma e del manuale e della guida che sono stati approvati in questi giorni di lavoro Marie-Françoise Delval, commissario generale Avicom, International Committee for the Audiovisual and Image and Sound New Technologies. Prego.
Give her a microphone, please. Anyone.
Bonsoir. Donc, je m'appelle Marie-Françoise Delval et je représente ici le Conseil international des musées, l'ICOM, à travers les activités de l'un de ces comités internationaux, AVICOM, Comité pour l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'image et du son. Pour rappel, l'ICOM est une ONG liée à l'UNESCO, constituée d'un réseau international de professionnels travaillant dans les institutions muséales et patrimoniales. L'une des manifestations majeures d'AVICOM est un festival, le Festival audiovisuel international Musée et patrimoine, qui a été créé en 1992 à la suite de trois constatations. Constatation d'un manque de qualité de certains audiovisuels produits par les musées, constatation d'un non-usage ou d'un usage limité des technologies qui peuvent apporter une aide indispensable aux musées et constatation de l'ignorance de certains musées dans des domaines de réalisation, de production et d'exploitation. Nous avons donc créé une compétition ouverte aux musées où ils peuvent présenter leurs audiovisuels et leurs multimédia, à savoir les CD-ROM et les sites web. Cette compétition s'accompagne bien évidemment d'une présentation et d'une consultation des productions qui sont présentées à cette compétition et également d'un colloque au cours duquel les professionnels des musées mais également des technologies viennent échanger sur le travail qu'ils font ensemble. Chaque année, un jury international et interprofessionnel visionne les sélections officielles et nous fournissons à ce jury, à ces jurys, une grille d'évaluation, mais le jury lui-même apporte ses propres critères d'évaluation lors des débats, de même que des jugements qui sont plus subjectifs, plus empiriques. Je vais vous faire un résumé des critères qui se sont dégagés au cours de ces différents débats sur les sites web. Et ces critères, bien évidemment, et pardonnez-moi, recoupent ce qui a été excellemment présenté ici depuis deux jours, ainsi que ce qui est recommandé dans la charte de Parme. Les critères, nous pouvons dégager à peu près cinq grands critères. L'autorité de la source, c'est-à-dire sa réputation et sa crédibilité. Les contenus, qualité d'écriture, étendue, profondeur, mention des sources et des liens. Troisième critère, la facilité d'utilisation, à savoir structure logique, navigation, technologie appropriée, exploitation. Quatrième grand critère, design et esthétique, lisibilité, présentation, graphique, multimédia et interactivité. Et dernier critère, mise à jour, c'est-à-dire date de création, fréquence de mise à jour, maintien du site à jour. Alors, pour reprendre assez rapidement ces cinq grands critères, l'autorité de la source, il est important d'établir qui est derrière la production du site visité, car aujourd'hui, il y a beaucoup de sites dits culturels, ou en tous les cas sur les musées, et le public qui vient visiter les sites a besoin de savoir qu'est-ce qui est plus ou moins crédible dans ce type de site. Qu'est-ce que l'institution ou les auteurs culturels et scientifiques, est-ce que les institutions et les auteurs culturels et scientifiques sont clairement définis, donc? Est-ce que l'institution et les auteurs sont reconnus dans le domaine? Est-ce que les qualifications ou affiliations sont mentionnées? Et peut-on facilement communiquer avec les auteurs? Pour les contenus, les contenus sont archi importants. Un site doit avant tout être documenté et donner cette information. Le contenu est le premier critère parce que c'est là que l'on va sur un site pour chercher son contenu. Aujourd'hui, un site doit aussi être attractif, c'est-à-dire avoir de l'originalité dans ses thèmes et diversifier ses cibles. L'unique présentation scientifique des thèmes majeurs ne suffit pas à satisfaire la curiosité du public. Il est important de développer les fonctionnalités éducatives et pédagogiques de manière inventive, innovante et ludique et de proposer des activités dérivées. C'est-à-dire, est-ce que la qualité de l'écriture est bonne? Y a-t-il des traductions correctes? Est-ce que tous les aspects du sujet sont couverts et à quel niveau de détail? Est-ce que plusieurs travaux originaux sont mis en ligne? Est-ce que l'information est vérifiable? Le site s'adresse-t-il donc à plusieurs types de publics? Englobe-t-il des publics étrangers? Donc, information dans les tenant compte de la culture des visiteurs étrangers et tenant compte de leur langue. Ces sites proposent-ils dans leur contenu des informations et des programmes conçus pour ces différents publics, enfants, scolaires, universitaires, seniors, associatifs, etc. Est-il possible d'échanger sur ces sites en ligne à travers des newsgroups ou des facs, par exemple? Propose-t-il des produits et des services de consommation et d'appel, comme des jeux, des quiz, des fonds d'écran, des billetteries, des achats de produits dérivés? Renvoie-t-il à des liens sur d'autres sites culturels, thématiques, touristiques? Et ces liens sont-ils pertinents et de qualité? Facilité d'utilisation également, donc je vous disais, de ces sites, c'est très important. Les sites peuvent contenir un grand nombre d'informations fiables et à jour, mais être assez désorganisés dans la présentation de ces informations. Y a-t-il une carte ou une table des matières de ces sites? Est-ce que le site est structuré logiquement? Et par exemple, y a-t-il un visuel mnémotechnique qui dirige la navigation à travers les thèmes? Est-ce que les boutons de navigation sont facilement compréhensibles et présents aux bons endroits pour qu'on puisse se déplacer facilement dans le site? Le site est-il accessible avec tous les navigateurs ou les différentes versions de navigateurs? Est-ce que tout le contenu du site est accessible sans que l'on ait besoin de logiciels spécifiques ou, si c'est le cas, un lien est-il fait vers les sites qui permettent de télécharger facilement ces logiciels de lecture? Pour détailler un petit peu donc la quatrième qui est le design et l'esthétique, un site agréable contenant du multimédia, de l'interactivité, peut devenir un document informatique unique n'ayant pas d'équivalent papier. Mais tout doit être bien équilibré. Le site est-il, par exemple, attrayant au niveau de ses couleurs, de ses présentations vidéo aérées? Est-ce qu'il a une bonne lisibilité de l'information? Est-ce que les illustrations et autres détails esthétiques sont pertinents? Donnent-ils une valeur ajoutée au contenu? Apporte-t-il un plus? Et aussi, la rapidité de chargement des pages des sites est-elle raisonnable? Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs qui font varier cette rapidité, mais il y a quand même une juste mesure. Et enfin, La mise à jour est une chose également très importante dégagée par les jurys. L'Internet est toujours en mouvement. Les sites apparaissent et disparaissent. On les consulte souvent pour avoir des informations récentes. Ce sont des raisons pour lesquelles une date récente de mise à jour sont importantes à être mentionnées dans ces pages. Donc, est-ce que les dates de création sont présentes? La date de la dernière mise à jour et la fréquence de mise à jour? Est-ce que la date est précisée pour les différentes parties du site et non pas sur la home page? Les liens proposés sont-ils actifs? Sont-ils toujours actifs? Ne sont-ils pas cassés? Et y a-t-il un archivage des pages web anciennes, de même que des produits qui deviennent caduques parce qu'ils ne sont plus dans le programme quotidien ou semestriel, mais auxquels on aime bien faire référence, qu'on aime bien retrouver. Donc, en gros, voilà ce que vous connaissez déjà, mais que ces différents jurys, à travers des productions qui viennent de différents musées de par le monde, voilà ce que les jurys sont amenés à juger et que eux-mêmes souhaitent que figurent dans les sites. Maintenant, je terminerai par quelques remarques également à travers ces sites qui sont soumis par les musées, dont certains, au travers de leur contenu et de leur technologie, sont un petit peu en avance par rapport, donc dans certains pays, par rapport à d'autres pays où l'usage de l'Internet est moins développé, mais qui comble par d'autres choses. Donc, il est vrai qu'il y a des constantes. Par exemple, aujourd'hui, il est indispensable qu'un site donne l'adresse postale du musée, l'organigramme des gens qui travaillent dans les services, le nom, les fonctions de ces personnes et une possibilité de joindre ces personnes. Et demain, donc, ce vers quoi l'on tend à travers ce type d'information sera effectivement, probablement sur les sites de musées, la création de newsgroups et de facs pour pouvoir discuter, rentrer en contact avec les gens du musée, mais même que le musée soit une plateforme au public qui vient visiter le site du musée. Quand on parle de connaître le musée et ses collections, aujourd'hui aussi des choses sont indispensables, c'est-à-dire le musée doit présenter un historique de ce qu'il est, un descriptif de ses départements et par là de ses collections. Les visites virtuelles des espaces deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus souhaitées. Pour la bonne raison, comme on le disait, que les gens ne viennent pas forcément dans les musées parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont empêchés, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont pressés de venir prendre une information et qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans le musée. Et donc cela ouvre des horizons sur le fait que les contenus des sites, les bases de données qui alimentent ces sites, doivent être de plus en plus fournies et de plus en plus ouvertes aux gens qui viennent chercher l'information sur les sites. L'information ne doit pas être bridée, ne doit pas être de petits pans d'information. Elle doit être le plus largement ouverte pour que les gens puissent venir prendre toutes les informations dont ils ont besoin. Également, un site culturel ne doit pas se contenter de présenter les collections, mais il a une mission éducative et culturelle. C'est-à-dire que, en dehors de l'activité du musée qui, dans ses murs, qui présente des expositions, le site lui-même peut présenter des expositions, dossiers propres au site, des expositions virtuelles. Ça, c'est une chose vers laquelle les sites tendent le plus en plus. Et donc mettre à disposition les données scientifiques, c'est-à-dire qu'on doit facilement, à partir de ces documents, copier, télécharger aussi bien les textes que les images, que les vidéos, les imprimer, les transporter. Et demain, tout cela tend aussi, certains musées déjà sont arrivés à cela, à un enseignement. Donc on dépasse un petit peu le fait de présenter les collections, mais on enseigne l'histoire de l'art sur certains sites de musées. On fait des conférences sous forme de visioconférences sur les sites de musées qui ne sont pas forcément des conférences dans le musée, mais des conférences et des visioconférences propres au site web. Et là, il faut faire attention que les technologies d'aujourd'hui n'empêchent pas, effectivement, de prendre ces informations. Quand on vient encore une fois sur un site, on veut pouvoir prendre ce qu'il y a sur le site. Et que ces nouvelles technologies, comme par exemple les techniques de flash, etc., empêchent de prendre l'information. On la voit, mais on ne peut pas la prendre. Et donc, c'est donc une petite réflexion à ceux qui construisent les logiciels et les technologies. Faites attention, mettez à la disposition des musées des technologies qui ne fassent pas un barrage de l'information. Toujours dans ces missions d'action culturelle, donc l'archéo aux archives est très importante. Les jeux sont de plus en plus importants. Il y a des pays où les sites web présentent beaucoup de jeux, beaucoup de ce qu'on appelle des quiz qui intéressent les jeunes comme les moins jeunes et qui permettent aussi de voir des substituts pédagogiques, des choses beaucoup plus ludiques, télécharger des fonds d'écran par exemple, mais qui soient des représentations des collections, du musée, des choses comme ça. Alors le site doit obligatoirement tenir compte de l'information. Aujourd'hui, on donne l'information des programmes culturels se passant dans le musée, mais se profile aussi pour demain des programmes à la carte que le public pourra lui-même composer à partir des éléments fournis par le site web. Encore une fois, des programmes spécifiques au web. Et le public pourra lui-même faire son exposition, faire son programme et partager ses expositions et ses programmes avec des écoles, avec des scientifiques, dans des associations. Et je terminerai par le fait que le site de musée ne doit pas perdre de vue la dimension de l'exploitation commerciale. Aujourd'hui, on peut acheter des billets sur les sites, on peut réserver, on peut acheter des cartes postales, on peut acheter des objets, des photos, des vidéos. Certains domaines même sont commercialisés, on peut consulter certains aspects, certaines prestations du musée sont payantes. Aux yeux de l'ICOM, ça n'est pas forcément une bonne chose que de faire mercantile, mais bon, il y a des choses qui peuvent être effectivement payantes. Et donc, l'ouverture vers demain va faire que ces choses qui sont payantes, selon que l'on vous parlait de visioconférence, d'enseignement, d'accès élargi à certaines bases de données, peuvent être payantes. Et c'est quand même une source de revenus pour le musée. Autre chose aussi d'ouverture pour demain, la commande donc de tout ce qui est carte postale, reproduction, téléchargement de posters et même d'objets. Nous savons maintenant que grâce aux bases de données, au lieu d'avoir un choix très limité de reproduction de cartes postales à quelques pièces maîtresses de musée, on peut très bien avoir tout ce qui est référencé par les bases de données d'un musée. Et donc, le public peut avoir ce qu'il veut comme reproduction ou comme carte postale qu'il peut télécharger sur son site, par le site, recevoir par email. Il y a un constructeur actuellement, pour ne pas le nommer, qui est Hewlett-Packard, qui travaille en France avec le laboratoire de recherche et de restauration des musées de France et qui a mis au point un système de reproduction de tableaux avec la reproduction des empattements de la peinture. Alors bien évidemment, ce sont des faux. Ça a une application scientifique pour les scientifiques qui veulent étudier la manière dont le tableau a été fait. Mais dans ce qui est reproduction de tableaux à vendre au public, voilà par exemple une application technologique qui peut être intéressante. Voilà, j'en ai terminé un petit peu avec ce que... à travers cette compétition, nous découvrons de ce que sont les sites et ce vers quoi ils tendent pour les prochaines années. Je vous remercie, je remercie nos hôtes et je remercie les traducteurs.
Merci Madame Delval, grazie per averci chiarito quanto sia importante poi dedicarsi a come sono fatti i siti, a che cosa consentono di vedere, a che cosa consentono di accedere, a che tipo di servizi già offrono e potrebbero offrire in futuro. Quindi grazie per questo approfondimento, era uno dei temi centrali dei lavori di questi due giorni.